Bonne fin de matinée, tout le monde. Un, deux, un, deux. L'église de Philadelphie. L'église missionnaire ayant peu de force. Alors, à ce qui paraît, l'image qui est ici, c'est une image, des vestiges de l'église de Philadelphie, en Grèce. Alors, on va lire le texte qui nous concerne ce matin. Alors, c'est le chapitre 3 de l'Apocalypse, les versets 7 à 13. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre, et personne ne fermera, celui qui ferme, et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Église dit. Ce que l'Esprit dit aux églises, plutôt. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va se courber quelques secondes pour demander au Seigneur de disposer nos cœurs, nos consciences. Seigneur, encore une fois, merci d'être là avec nous. Et on prend ces quelques instants pour partager ces Écritures. Et par ton Esprit, Seigneur, nous te demandons de nous bénir, de disposer nos cœurs, nos intelligences, nos esprits à ton écoute. Et comme tu sais le faire si bien pour chacun d'entre nous, à tout moment, Seigneur, fais-nous du bien, touche la corde sensible que tu dois toucher. Et Seigneur, travaille en nous et fais-nous du bien. Fais-toi connaître davantage de nous, Seigneur, au travers de ce que tu veux nous révéler ce matin à chacun d'entre nous. Tu es le bon berger qui prend soin de chacune de ses brebis et qui les nourrit bien en tout temps. À ton nom précieux qu'on te prie. Amen. Je sais très bien que le tableau c'est petit, mais ça aurait été difficile d'en faire. En fait, vous allez comprendre, ça ne rentrait pas sur une feuille. C'est énorme. Je voulais vous montrer que le tableau, en fait, c'est pour nous aider à comprendre. Alors, les églises, j'en ai seulement mis trois. J'ai mis Philadelphie et Smyrne avec la Laodicée. Philadelphie et Smyrne, c'est les deux églises, vous savez probablement. Il n'y a aucune faute. Le Seigneur ne reproche rien à ces églises. Aucun danger qui les concerne. Le Seigneur n'a que des éloges pour ces deux églises. Alors, c'est pourquoi je les ai mis une à côté de l'autre. C'est l'église ici, Philadelphie, qui nous concerne aujourd'hui. Et puis, j'ai mis la Laodicée. Et puis, vous savez que chaque église, la façon que le texte est présenté, il y a des caractéristiques communes avec chacune, que ce soit l'église de Éphèse, Pergame, Thyatire, etc., toutes ont une structure et des caractéristiques qui se ressemblent. Alors, il y a les caractéristiques qui sont liées à Christ quand il se présente à l'Église et qui, dans la présentation qu'il fait, le sujet du message qu'il a donné à l'Église se retrouve dans sa présentation. Ensuite, il vient avec des œuvres. Il va parler des œuvres connues pour chaque Église. Qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, le Seigneur montre qu'il sait ce qui se passe dans ces Églises. Ensuite, il vient avec des reproches. Et on voit que pour Philadelphie et Smyrne, il n'y a aucun reproche. Par contre, pour la Odyssée et pour les autres, le Seigneur a des reproches à leur faire. Ensuite, il y a des conseils impératifs qu'il donne à chacune des églises. Et puis, il y a des dangers. Aucun danger n'est... on ne voit pas de danger dans les deux églises, Philadelphie et Smyrne. Mais pour toutes les autres églises, on voit que le Seigneur met en garde les autres églises en rapport avec ce qu'ils ont fait, avec les reproches qu'ils leur ont fait. Alors, finalement, il y a une mise en garde et il y a des récompenses qui sont données à chacune des églises. Alors, j'ai pensé amener un arrière-plan historique, un résumé pour nous aider à comprendre le message des Églises. Vous savez, pour beaucoup et pour durant plusieurs années, plusieurs époques, l'Apocalypse était un livre, on pourrait dire, obscur. Les gens, lorsqu'ils lisaient l'Apocalypse, ce qu'on en disait, première impression, on n'y comprend rien à peu près, ça nous rejoint plus ou moins. C'est un livre obscur, on n'est pas capable de voir ce qui est dedans. Pourtant, ces lettres ont été envoyées, Jean a envoyé ces messages à des églises locales qui existaient à cette époque, comme nous, on est une église locale. Le Seigneur pourrait nous envoyer un message ou quelqu'un pourrait nous envoyer un message. Ça nous concernerait dans notre contexte. Alors, certainement que les gens de l'époque, les assemblées locales de cette époque, comprenaient le message qui leur était adressé. Peut-être pas dans toute sa plénitude, parce qu'il y a certains passages qui relèvent d'une période de temps futur, mais le message principal adressé aux églises, les frères et les sœurs le comprenaient. Alors, en comprenant le contexte, on devrait être capable aussi de comprendre un peu, soit-il, qu'est-ce qui se passait à l'époque. Alors, ces églises ayant reçu ces lettres étant de vraies églises dans l'histoire du premier siècle en Asie mineure, au temps de Jean, où a écrit entre 95 et 98, et j'ai mis historique. Alors, ce sont des vraies églises. Ils ont existé, des assemblées locales, comme nous. Ils avaient des contextes particuliers. Ils vivaient des choses. Chacune de ces églises, de ces assemblées locales, vivait des choses dans leur interne. Le chiffre 7 nous parle de plénitude et de perfection dans la Bible. Alors, ces sept églises sont typiques pour nous démontrer des forces, des problèmes, les fautes et les faiblesses de l'Église locale. Non seulement pour celle au temps de John, mais aussi pour celle d'aujourd'hui. Et là, j'ai mis personnel. Notre frère Trévor, lorsqu'il a prêché, il a parlé d'une approche historique, une approche prophétique, une approche pratique et personnelle. Dans le mot personnel, j'ai le mot pratique aussi. Il n'est pas écrit, mais j'ai la même idée. Dans ce sens, que c'est personnel à une église locale d'aujourd'hui, et c'est personnel aussi en tant qu'individu dans l'assemblée locale. Le message qu'on retrouve dans chacune des églises s'adresse à chacun de nous, s'adresse aussi à l'assemblée locale, non pas qu'au temps de John, au premier siècle, mais durant toute l'histoire de l'Église, et encore même aujourd'hui. Dans ces sept églises, deuxième paragraphe, nous retrouvons chaque sorte d'église, autant que chaque genre de chrétien, illustré par leurs caractéristiques propres à chacune d'elles. Non seulement qu'au temps de John, mais durant toute l'histoire de l'Église, de la Pentecôte à l'enlèvement. Et prophétique, en d'autres mots, nous retrouvons dans ces sept églises locales, sélectionnées par le Seigneur, une composition de l'image de l'Église et du chrétien de toute époque. Le Seigneur, il a fait une pierre trois coups, si vous voulez, ou une pierre quatre coups. Bon, il est talentueux, c'est un grand pédagogue, et quand il donne un message, il va parler à la personne, mais ses paroles vont plus loin, ils portent plus loin que ce qu'il disait. Alors, c'est pourquoi ses exhortations, ses recommandations aux églises de son époque, il savait très bien de la façon qu'il emmenait les choses et qu'il les a disposées. Il savait très bien qu'il allait parler à toute l'Église dans toute sa période de temps et aux personnes individuelles. Alors ici, on a des caractéristiques, je vous amène toutes les caractéristiques des sept églises pour comprendre la prophétie durant toute la période de l'histoire de l'Église. Alors, on a Éphèse, et qui a son premier amour perdu. On a Smyrne, l'Église persécutée. On a Pergame, l'Église fidèle, tolérante de faux enseignants. On a Thyatire, l'Église dominée par une puissante fausse prophète. On a Sardes, l'Église mourante spirituellement. Et la nôtre, Philadelphie, qui est une Église fidèle, missionnaire, évangélique. Et la Odyssée, l'Église tiède, complaisance, orgueil, suffisance et ignorance. Je vous fais remarquer que l'Église de Smyrne, c'est une Église persécutée. Il n'y a rien de négatif à propos de Smyrne comme Philadelphie. Ce sont deux églises très, très, très fidèles au Seigneur, qui étaient attachées à lui. Et qui ont vécu, le Seigneur leur a envoyé des épreuves, et ils ont vécu ce qu'ils avaient à vivre, mais ils ont toujours demeuré fidèles envers le Seigneur, et le Seigneur n'a que des louanges pour ces deux églises. Un autre tableau. Alors, ces caractéristiques qu'on vient de voir nous parlent aussi d'époque. Hein, le Seigneur a donné des caractéristiques en sorte que durant toute l'histoire de l'Église, on est capable de voir qu'à certaines époques, il y avait une caractéristique plus dominante qu'une autre. Et ainsi, on voit qu'Éphèse, qui est l'Église apostolique, l'Église des apôtres, hein, le début de l'Église, alors c'est dans les années 30 à 100 de notre ère, et ensuite Smyrne, qui est l'Église persécutée. Alors on sait très bien, selon les écrits, que dans les années 100 à 313, l'Église de Christ a été très, très, très persécutée. Il y a eu pas moins de 10 empereurs romains qui ont fait de grandes persécutions, et certains d'entre eux encore plus que les 8 autres. Il y en a deux, le Domitien, puis un autre Domitien qui est vers l'époque de Jean, un petit peu plus vers Jean. Dans 98, je pense, puis un autre plus loin vers, je pense, 250 et plus, là. Ils ont été, c'était des démons. Un chrétien pour ses Césars, si vous voulez, était de la vermine. On devait se débarrasser, détruire un peu à la même image qu'Hitler a voulu se débarrasser des Juifs à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, ces empereurs voulaient tout faire pour se débarrasser des chrétiens dans tout leur empire. Parce que de 100 à 313, vous savez, des chrétiens, il y en avait par millions là, dans tout l'Empire romain. Alors, on arrive à Pergame dans les années 313 et 90, et là, il y a eu Constantin, vous savez, dans les années 300. Alors là, l'Église est devenue étatique. Alors là, on s'est rendu compte, l'empereur s'est rendu compte que ses meilleurs citoyens étaient, en fait, des chrétiens. Alors, c'était un peu fou de s'en débarrasser. C'était nos meilleurs citoyens. Ils étaient honnêtes, étaient fidèles, étaient pacifiques. Alors, c'était fou en tant qu'empereur, en tant qu'État, si vous voulez. Alors là, ils ont étatisé le christianisme, si vous voulez. Alors, c'est devenu dans ces années-là une église étatique. Alors, tout le monde dans l'Empire devenait, par ainsi dire, chrétien, si vous voulez. Ça faisait partie de l'État romain maintenant. La période de 590 à 1517 qui attire l'Église papiste. Alors là, l'État a nommé, si vous voulez, un pape. C'était le chef, le grand chef. Comme il y avait le grand chef politique, il y avait aussi le grand chef de l'Église qui dirigeait tout. Et ensuite, l'Église de Sardes. On voit très bien qu'à l'époque de 1517-1790, c'est l'Église réformée. Et quand on prend ces mots, ces adjectifs, si vous voulez, et qu'on les compare avec les églises, dans le message qu'on retrouve dans les églises, on voit que ça correspond. L'Église de Philadelphie, la nôtre, l'Église missionnaire. On va voir tantôt dans le texte, on va regarder le texte, puis on voit très bien que ce qui est écrit pour l'Église de Philadelphie, ça correspond très bien à une Église missionnaire qui est dans les années 1730 à 2000 à peu près. Et c'est notre époque. Je veux dire, c'est pas très, très, très loin derrière nous, puis on connaît des Hudson Taylor, puis des Carey, puis on connaît plein de grands hommes, je n'ai pas tous les noms à l'esprit maintenant, là, mais on sait qu'il y a des grands missionnaires, de grands hommes de Dieu sont allés partout dans cette époque de 1700 à 2000. Et puis finalement, on a la Odyssée, l'Église apostate, qui les années 2000 à l'enlèvement, évidemment. C'est la dernière Église qui est de moins en moins fidèle au Seigneur, qui se dit Église chrétienne, mais en fait qui renie le Maître. Une autre image, une autre analogie qu'on pourrait prendre, c'est les sept couleurs de l'arc-en-ciel. Vous savez que les sept couleurs de l'arc-en-ciel forment un tout. Alors, les sept couleurs sont toujours présentes tout au long de la dispensation de la période de l'Église. Cependant, il y a une couleur dominante durant une période donnée caractérisant ainsi cette époque de l'Église dans laquelle elle se trouve. Donc, il y a sept périodes de temps, chacune ayant une couleur dominante caractérisant chaque époque de l'Église. Et chaque couleur peut représenter aussi un genre différent de chrétien. En général, ces lettres traitent de problèmes inhérents aux Églises tout au long de l'histoire de l'Église et constituent une révélation incisive comme si on faisait une chirurgie, là, puis on fait une incision très, très délicate et précise. Alors, c'est le Seigneur qui fait une incision est détaillée de la façon dont Christ évalue les églises locales ainsi que les personnes. En somme, les sept églises, 100% des caractéristiques possibles d'une assemblée chrétienne ou de chrétien. Quand on regarde toutes les sept églises et qu'on regarde les textes dans tout son ensemble, ça donne un large panorama de ce à quoi une assemblée locale peut rassembler. Certains pourraient peut-être dire, ah, mais il y en a beaucoup plus. Mais le Seigneur donne cette image qui probablement comprend ce qu'une assemblée peut être, et même en tant que chrétien, dépendamment de notre marche avec lui et de ce qu'on peut vivre. Alors, ça représente très bien l'assemblée locale et le chrétien lui-même. Verset 3, chapitre 3, verset 7, excusez-moi. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. D'abord, l'assemblée de Philadelphie, le mot c'est l'amour fraternel, que l'on se démontre l'un et l'autre. Dans Colossiens 4, 3, et le Seigneur nous dit, « Priez, c'est l'apôtre Paul qui parle, « Priez en même temps pour nous, afin que nous, que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. » Alors le texte, il nous parle, il dit bien, hein, « Celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Et on sait très bien que dans ces années 1700 à 1900, des portes pour la mission ont été ouvertes. Il n'y avait pas aucune place sur la terre, pratiquement, qu'un missionnaire n'était pas bienvenu. Que ce soit en Afrique, en Asie, un peu partout sur la planète, les missionnaires à cette époque étaient le bienvenu. Ils allaient là, ils étaient quand même très libres, ils pouvaient présenter la parole. Une porte était vraiment ouverte. On ne peut plus en dire autant aujourd'hui. Beaucoup de portes se ferment maintenant, et vous savez pourquoi, en raison de l'islam et de bien d'autres choses, mais à cette époque-là, c'était pas le cas. Même dans des pays musulmans, les missionnaires étaient bien accueillis. Alors, à l'exemple de ce que nous dit Colossiens, alors une porte était ouverte. Matthieu nous dit, dans Matthieu 16, le Seigneur dit, « Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume. » Et les clés du royaume, quand on parle de clés dans la parole de Dieu, on parle d'autorité. Et celui qui parle, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Ça nous rapporte en un texte dans l'Ancien Testament qui fait référence à un descendant de David, un roi qui avait un mauvais intendant, et le Seigneur a remplacé ce mauvais intendant par un vrai serviteur fidèle. Et, alors, ça parle d'autorité. Et on voit que nos deux textes que nous trouvons dans le Nouveau Testament font état de ce qu'on vient de lire, d'ouvrir une porte que personne ne pourra fermer. Alors, l'Église avait l'autorité de présenter l'Évangile et était libre de le faire durant cette période dite missionnaire. On continue. Je te connais, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Excusez-moi encore une fois, je me suis trompé. Je connais tes œuvres parce que tu as peu de puissance, peu de missionnaires. Peu de chrétiens pour soutenir les missionnaires, peu de ressources, peu d'argent, peu de tout. Et à l'époque où est-ce que Jean a donné les textes, les chrétiens étaient rejetés de tous, persécutés, expulsés de ton travail, de ta famille, ton héritage, ton village, ton pays. On ne voulait rien savoir de tout, tu étais rejeté. Alors vous imaginez-vous combien pauvre était l'Église à l'époque? L'Église était extrêmement pauvre. Elle était peu puissante, si vous voulez, parce qu'elle n'avait rien. Et pourtant, Et pourtant, on voit bien dans le livre des Actes des Apôtres, on voit bien ce que le Seigneur... Et on voit avec toute l'histoire de l'Église maintenant, nous qui sommes à la fin, dans les années 2000, on voit comment est-ce que Dieu, avec si peu de ressources, si peu de personnes, comment est-ce qu'il a renversé le monde, l'état mondial. C'est incroyable. Parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole, alors c'est ça la clé, parce que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. La fidélité à la personne de Christ, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. En fait, l'Église était sauvée par son nom, elle priait en ce nom, elle était haïe à cause de ce nom, mais elle recevait aussi sa force en raison de ce nom. Alors, bien qu'on soit petit, à l'exemple de David, David était tout petit, un adolescent, pour ainsi dire. Il devait peser 100 livres et un peu plus, peut-être. À comparer de Goliath, c'était incroyable, mais pourtant, David, il le dit à Goliath, « J'ai avec moi l'Éternel des armées. Et aujourd'hui, je vais te couper la tête et je vais donner ton corps au chien. Parce que l'Éternel est avec moi. » Alors, ainsi en est-il de l'Église, parce que le Seigneur est avec nous. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. En fait, les vrais juifs sont ceux qui ont le cœur circoncis, nous dit l'apôtre Paul. Alors, la synagogue de Satan est remplie de juifs de même nature que ceux qui ont rejeté et crucifié le Maître et Seigneur Jésus-Christ. Et vous savez que durant, au début de l'Église et pour bien des siècles, les juifs ont toujours été en opposition avec l'Église locale. L'Église vient de la synagogue, et au début, c'était tous des Juifs, et par la suite, les païens sont arrivés, mais les Juifs qui sont demeurés Juifs, et qui étaient que des Juifs, qui n'appartenaient pas à Dieu, alors ils ont toujours manifesté une forte opposition à l'Église de Christ, et c'est pourquoi le Seigneur les appelle la synagogue de Satan. Ce sont des morts vivants qui vont mourir encore. Philippiens 2, 10, 11 nous dit, « Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Romains 14, 11 et 12, « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. » Dans quelle mesure le Seigneur aura amené certains Juifs qui faisaient du trouble à se repentir et à venir s'humilier et à confesser, un peu de la même façon que l'apôtre Paul qui persécutait l'Église, hein? Alors l'apôtre Paul, il s'est finalement humilié devant le Seigneur, il a accepté le Seigneur et il a fait partie de l'Église. Alors, dans quelle mesure que le Seigneur aura accompli cette chose-là à l'époque, mais on sait très bien que dans l'avenir, dans le futur, Christ va accomplir parfaitement sa parole. Et les derniers versets, verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai hors de aussi. » Aussi alors veut dire dans le grec, c'est hors de la tentation qui va venir sur le monde ancien pour éprouver les habitants de la terre. Alors, ce verset nous parle certainement de l'avenir. Dans quelle mesure, à l'époque, à l'Église de Philadelphie, ça s'est accompli? C'est difficile pour nous de le savoir. Mais on sait que Smyrne, Dieu a dit à Smyrne, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Tu vas être tribulé, tu vas passer par la mort, mais... la seconde mort, ça ne s'applique pas pour toi. Tu sais, tu vas venir me trouver. Et à l'église de Philadelphie, il lui dit, je vais t'épargner. Alors, Certainement que le Seigneur a épargné, peut-être dans certaines tribulations, dans certaines persécutions, le Seigneur a épargné à l'Église de Philadelphie certaines choses, mais il en demeure pas moins que le verset 10 se rapporte à l'Église dans un temps futur. Et beaucoup pensent à l'enlèvement de l'Église. Où est-ce que le Seigneur viendra enlever l'Église et nous épargnera, vous savez, les sept années de la tribulation. Verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. » Et ici, le temple de mon Dieu, une colonne dans le temple de mon Dieu, vous savez que le temple de Dieu n'est pas construit de pierre. Il y a la grande Jérusalem, mais il n'y a pas de temple dans la ville. Le temple, c'est Dieu lui-même. Alors que Dieu dit, nous dise, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Alors, dans la résurrection, on va hériter avec Christ et on, dans le fond, c'est comme si on faisait partie du temple avec Dieu. Parce que la colonne est dans le temple, elle forme le temple. Si on prend un temple physique, là, vous comprenez ce que je veux dire. Alors, si Dieu nous dit qu'on va devenir des colonnes dans son temple, imaginez l'honneur qui nous est fait. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors ici, on a vraiment une identification à Dieu lui-même et le Seigneur Jésus-Christ qui lui-même va nous donner son propre nom. Alors on a des récompenses promises ici qui sont incommensurables. Et finalement, le verset 13 qui revient à chacune des églises, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dise aux églises. À chaque église, le Seigneur termine en disant, prenez bien garde à ce que vous entendez. Est-ce qu'on prend bien garde à ce qu'on entend ce matin? Le message des sept églises de l'Apocalypse, ça nous concerne. Ça concerne l'assemblée locale et ça concerne les individus qui la composent. Il y a plusieurs couleurs d'assemblée, il y a plusieurs caractéristiques, le Seigneur les a énumérées, ça nous concerne. Et c'est à nous maintenant de faire un bilan, de faire une introspection et de se voir en tant qu'assemblée locale. C'est quoi notre couleur? Et personnellement, qui qu'on est, comment est-ce qu'on marche avec le Seigneur? Parce que le Seigneur, lui, là, c'est déjà fait pour lui. L'assemblée du Cap-de-la-Madeleine, là, il l'a fait l'incision, puis il est allé voir, puis il a sondé son cœur et ses reins, puis il a mis ses lunettes, puis il a regardé la couleur, puis il sait comment est-ce qu'elle se compose. Il sait de quoi est-ce qu'il en retourne. Et il fait la même chose avec chacun des individus. Alors, les sept églises de l'Apocalypse, dans les deux chapitres, dans 2 et 3, c'est pas des versets là, qui nous concernent pas, puis c'est pour des temps futurs. Oui, il y a des éléments dans ces textes qui concernent l'avenir et qui concernaient les églises de cette époque. Mais tout au long de l'histoire de l'Église, ses couleurs étaient présentes, une était plus dominante qu'un autre, les caractéristiques étaient là aussi. Et ça nous parle aussi aujourd'hui, comme ça a toujours parlé à l'Église, durant toute son histoire. Oui, il y a des textes qui ne nous concernent pas, des parties de textes, mais il y a des parties de textes qui nous concernent très bien. Et on doit, chacun d'entre nous, on doit aller voir ces textes et demander au Seigneur, par son Esprit, de nous parler. Il y a des couleurs, il y a des teintes, il y a des caractéristiques qu'on devrait avoir et d'autres qu'on ne devrait pas avoir. Peut-être que le Seigneur a des reproches à nous faire. Est-ce qu'on écoute? En terminant, on devrait ajouter qu'en plus d'être de réelles églises au temps de John, ces lettres possèdent des applications courantes. Les églises d'aujourd'hui devraient s'auto-évaluer à l'aide de ces 7 lettres. Ce genre de revue intérieure devrait s'étendre aussi à chaque personne chrétienne d'une assemblée quelconque. Nous devrions prier, après un examen honnête, que le Seigneur nous aide à ressembler de plus en plus aux églises de Smyrne et de Philadelphie, pour lesquelles le Seigneur n'a fait aucun reproche, que de la louange. Et si l'Assemblée du Cap-de-la-Madeleine ne veut avoir aucun reproche et qu'on veut recevoir de la louange, de l'admiration de la part du Seigneur, bien, regardons l'Église de Philadelphie et de Smyrne. Essayons de lui ressembler. Si on ressemble à Laodicée, à Pergame puis Thyatire, on peut peut-être passer au feu. Il n'y a rien de caché devant Dieu. Il sait davantage que nous-mêmes où nous nous situons dans notre marche avec lui et surtout comment nous marchons à chaque jour de notre vie. Les promesses de Dieu faites aux églises peuvent nous être propres si nous nous humilions et confessons nos fautes, péchés et égarements. Nous, on s'est humiliés, on appartient au Seigneur. Et les promesses qui sont dans les messages de ces 7 églises nous concernent. Il y a des promesses qui pourraient nous être données dans notre vie, dans notre marche chrétienne. Il y en a qui pourraient être limitées en raison de notre marche. Si une personne n'appartient pas au Seigneur, aucune de ses promesses ne lui appartient. Alors, c'est important d'appartenir au Maître. C'est important d'être un de ses enfants, d'être une de ses brebis, de le reconnaître comme Maître, Seigneur et Sauveur, et pour devenir un de ses disciples, pouvoir faire partie de son Église et puis recevoir tout cet héritage. On n'arrête pas de dire et de dire et de redire, et on fait bien de dire un si grand salut. Hein? Quand ce salut-là, on le possède, là, mais quand il va commencer à se déployer à l'enlèvement de l'Église, waouh! Quand on va se faire enlever, puis qu'on va commencer à se faire transformer, là, puis qu'on va ressusciter dans ce corps parfait à l'image de Christ, puis là, que toute l'éternité va s'ouvrir devant nous, là, puis là, que tout va s'accomplir pour ce qui nous concerne, puis là, qu'on va commencer à régner 1000 ans, puis qu'on l'éternité va... On va régner avec Christ durant toute l'éternité, puis que là, on va à chacun, hein, il va nous rendre à chacun selon ce qu'on aura fait, puis que là, tout va s'accomplir, puis responsabilité, bénédiction, bonheur éternel. Waouh! Hein? Quel salut, quelle bénédiction que nous avons qui va se déployer bientôt. Le Seigneur est digne, hein, est digne, et on devrait faire des efforts supplémentaires, même si c'est difficile, pour ressembler à Smyrne et à Philadelphie. Seigneur, encore une fois, on est reconnaissant pour ce court partage qu'on a eu, et Seigneur, il t'incombe dans notre cœur, dans notre esprit, dans notre âme, de nous toucher, Seigneur, de toucher cette corde sentière, mais de nous instruire selon notre besoin présentement, là où est-ce qu'on est dans notre marche avec toi. Encore une fois, merci d'avoir été là, d'être là en tout temps, de nous bénir abondamment. Seigneur, merci et accompagne-nous dans notre marche aujourd'hui et durant la semaine. En ton nom précieux. Amen. Merci.